Radio Fribourg,
les sons du réel.
Cela aurait pu être un après-midi d'automne comme les autres. Depuis quelques jours, le brouillard n'arrivait pas à se dissiper sur Fribourg et soudain, aujourd'hui, en début d'après-midi, le soleil réussit enfin à percer légèrement la grisaille. Mais c'était hélas un après-midi, pas comme les autres. Fribourg, tout Fribourg était là pour rendre un dernier hommage à Joseph Siffert. Le cortège funèbre s'était formé à l'université, peu après 14 heures, et le service d'ordre eut fort à faire pour frayer un passage à ce cortège dans la véritable marée humaine qui envahissait la rue de l'hôpital, la rue de Lausanne, puis la place du Tilleul, en direction de la cathédrale. Un cortège sur le passage duquel bien des fribourgeois ont versé une larme ou retenu un soupir de tristesse. Un cortège qui ne fut que simplicité. Le corbillard escorté par des pilotes et amis du disparu, une voiture poussée par des mécaniciens, des drapeaux, la famille, des amis, beaucoup d'amis venus de Fribourg et venus aussi parfois de fort loin. Devant la cathédrale, le cercueil est porté par 8 pilotes et amis de Siffert qui vont le déposer sur le catafalque à l'entrée du cœur de la cathédrale. Les parents suivent et prennent place. Et c'est alors la scène poignante, je vous l'assure, de la jeune épouse de Joseph Siffert, Simone, appuyant sa tête sur le cercueil, puis le casque de coureur qu'on y avait déposé.
C'était un meneur d'hommes, entre guillemets, un type dont, qui avait un enthousiasme tellement débordant qu'on ne pouvait que se rallier à lui. À la limite, ça aurait pu être un gourou. Il avait une force de persuasion absolument incroyable. Et c'est vrai que, bon, en plus de ça, la course automobile, c'était quelque chose qui était quasiment inconnu à Fribourg, voire en Suisse. Il y avait eu deux pilotes, il y avait eu Toulouse Graffenried, il y avait eu Benoît Musy, il y avait eu deux, trois personnes à Fribourg et ailleurs. Mais disons que lui avait une force de persuasion qui était colossale et nous a fait participer, nous a associés à cette passion. Je crois que personne qui l'a connu et qui a fait un bout de chemin avec lui ne l'a jamais regretté.
Nous sommes en 1948, le père de Joe Siffert l'emmène voir le Grand Prix d'Europe sur le défunt circuit du Bremgarten à Berne. Pour Joe, c'est le coup de foudre, c'est décidé, il consacrera sa vie à la course automobile. Issu d'un milieu modeste de la basse ville de Fribourg, les premières années de course relèveront de la galère pour Seppi, mais après avoir tout sacrifié à sa passion et financé ses courses en faisant commerce de voitures accidentées, il réussira à se hisser au plus haut niveau de la compétition automobile mondiale. Les sons du réel retracent le parcours fulgurant de ce pilote mythique qui brilla dans toutes les disciplines du sport automobile, de la course d'endurance à la Formule 1 entre 1960 et 1971. Joe Siffert, courir à tout prix, un reportage de Julien Guillaume. Jacques Deschenaux, on est ici au Tea Room du Petit Rex à Fribourg. C'est un lieu très évocateur hein, quand on parle de Joe Siffert.
Oui, bien sûr, pas seulement de Joe Siffert. C'était un rendez-vous d'étudiants extrêmement prisé. C'était le lieu à la mode, l'endroit à la mode, le Petit Rex. Et Siffert s'y rendait aussi régulièrement. C'était aussi un peu son shtam. C'était un lieu de rendez-vous auquel il n'était pas nécessaire de se donner rendez-vous, on savait qu'on y trouvait toujours quelqu'un.
Jacques Deschenaux, journaliste sportif, ami et confident de Joe Siffert.
Je l'ai connu en 1962, un petit peu par hasard. D'abord, on commençait à parler de lui, c'était ce fribourgeois qui faisait de la course automobile et il commençait à intéresser un petit peu tout le monde, même s'il n'était pas encore connu. Et en fait, je l'ai connu par l'intermédiaire de Joe Paquier, aussi une figure emblématique de Fribourg. J'avais envie d'aller à la course de côte au Longvillard et je n'avais pas de moyen de locomotion. J'étais allé une année auparavant à vélomoteur et là, il fallait trouver quelque chose d'autre. Et Joe Paquier m'avait dit, mais demande à Siffert, il court là-bas, il pourra sûrement t'amener. Et après beaucoup d'hésitation, j'avais osé l'aborder, lui demander, puis très naturellement et très gentiment, il m'avait emmené avec lui pour cette expédition. Et personne, ni lui ni moi, n'avait l'idée que ce premier véritable contact était le début d'une amitié extrêmement solide.
En fait, il débute sa carrière sportive en moto. Pour lui, c'était une étape vers la course automobile, c'était juste une première étape.
Oui, parce que commencer avec la course automobile, c'était trop cher, c'était difficile, c'était pas possible. Et ce qui l'intéressait, c'était la compétition avec moteur, c'était la recherche de c'était la vitesse, c'était la recherche de la limite. Et la meilleure façon d'y arriver, c'était avec la moto. Il a commencé par faire des courses de moto sur gazon. Il a fait du sidecar en tant que passager dans le panier, comme l'on dit. Et simultanément, il a fait aussi des courses de moto en 250 ou en 350, je crois. Mais c'était une façon d'apprendre à se battre en peloton dans des courses motorisées. Mais l'objectif suivant l'objectif final restait la compétition en automobile. Waking up to these moments,
never quite complete moments. Joe Seifert débute dans le sport automobile en 1960 sur une course au Lac Noir, hein, sauf erreur.
Oui, je crois. C'était le fameux slalom sur glace du Lac Noir, sur le lac gelé, qui, je ne sais pas si la tradition se perpétue, je ne sais pas si le lac est gelé chaque hiver, mais je crois que ça se fait toujours. Lorsque le lac est gelé, il y a cette épreuve à laquelle il avait participé, effectivement.
La première voiture qu'il a eue en 1960...
Michel Piller, premier mécanicien de Joe Seifert.
C'est une Stangelini qu'il a achetée lui-même. Et c'est ses premières voitures de Formule Junior qu'il a fait en 60. Et en 61, il a acheté les premières voitures Lotus, qu'il a travaillé dur l'hiver, en faisant du commerce de voitures accidentées et d'occasion pour arriver à se payer lui-même une voiture.
Et ces voitures, elles arrivaient en kit, vous deviez les monter, c'est ça, hein ?
Elles étaient montées, les juniors, elles étaient montées, mais il y avait encore beaucoup de finitions à faire parce que les voitures étaient livrées sans les avoir essayées, en somme, de l'usine. On les préparait encore ici à Fribourg.
Et où est-ce qu'on les rodait ? Où est-ce que vous les rodiez, ces voitures ? Parce qu'à Fribourg, il n'y avait pas de circuit.
Fribourg n'avait pas de circuit. Moi, j'avais un atelier où je faisais les motos et les voitures à la route de la Glane. Et de temps en temps, Joe allait les essayer le bout de la glane. Mais on a eu quelques fois quand même la gendarmerie qui nous avait fermé la circulation, qui était en somme très gentille à cette époque pour nous arranger un petit peu, qu'on puisse quand même essayer un petit peu les voitures.
Mais au niveau financier, il y avait toujours les moyens de...
Ça, c'était très très dur. Alors, c'était toujours tiré par les cheveux, l'histoire de l'argent pour avoir des pièces ou quoi que ce soit. Et souvent, on nous a même livré des pièces d'Angleterre qui étaient des mauvaises pièces. On les recevait vraiment, c'était déjà des pièces usées. C'était toujours très, très, très tendu. Les nuits entières dans mon atelier à la route de la Glane, c'était des fois assez périlleux. Bon, il y avait beaucoup de copains autour, on était toujours toute une équipe de copains. Alors eux, ils allaient faire la petite farinette au Molaison, n'est-ce pas ? Et puis, les mécanos bossaient. All night long, you seem to
fill the air. Michel Piller, vous avez été très vite, dès le début, embarqué hein, dans l'équipe à Seifert. Vous avez vu du pays avec lui. Hein.
Oui, on peut dire qu'on a beaucoup voyagé. Mais on voyageait péniblement à cette époque, parce que c'était avec une voiture, une remorque, ou bien un petit camion qu'il avait transformé lui-même pour se déplacer. On mangeait des boîtes de conserve, c'était vraiment le campement tout à fait primaire.
Oui, c'était vraiment l'aventure dans les tout débuts.
Vraiment l'aventure, ouais. Exactement. Ouais.
Je crois que vous n'étiez pas toujours payé à la fin du mois, hein.
Non, bon, non, surtout pas. Non, non, au début, on ne parlait même pas de paye. Il nous donnait à manger, si on veut. On était presque dire comme nourri, logé, mais c'est tout. On n'avait pas de paye les premières années, pas du tout.
Son rêve, son objectif, je dirais, final, c'était la Formule 1 quand même.
Oui, bien sûr, parce que déjà à cette époque, la Formule 1 était le top niveau, c'était les Grands Prix, hein, c'était le Grand Prix de Monaco, c'était ce qui faisait rêver déjà à l'époque les jeunes qui souhaitaient pratiquer ce métier. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les courses d'endurance qui l'ont attiré très rapidement, et il a été, il faudra le rappeler, un des grands pilotes d'endurance, peut-être certainement un des plus grands de tous les temps, en particulier chez Porsche. Il a tout gagné, sauf les 24 heures du Mans. C'est vrai que lui, ce qui comptait, c'était la course, que ce soit Formule 1, oui, parce que c'était le plus haut niveau, mais l'endurance, où il a fait de la Can-Am, il a même fait de la Formule 2, et l'année de sa mort, il avait fait plus de 40 courses entre le mois de janvier. Il avait commencé sauf erreur, un Grand Prix d'Argentine, ou plutôt les 1000 km de Buenos Aires, jusqu'à sa dernière course, il a fait plus de 40 compétitions dans toutes les disciplines possibles. Dès qu'il y avait une possibilité de courir, il y allait.
Michel Piller, qu'est-ce qui faisait les qualités du pilote Joe Seifert ?
C'est la passion, c'est le don, la passion. C'est vraiment, il avait vraiment un don de pilotage. Vraiment, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle voiture, une voiture touriste, une voiture, n'importe quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir plus tard ce qu'il a fait avec les Porsche, les grosses 917, les Can-Am en Amérique. Il a gagné combien de courses ? Je ne peux pas vous les énumérer parce que ce serait trop long. Dans beaucoup de pilotes que j'ai rencontrés, je n'en ai jamais rencontré un comme ça. Ça, je dois dire ouvertement. Lui, il faisait n'importe quoi, il aurait retourné. Si elle était, il voulait absolument monter dans sa voiture. À Monza, en 61, aux essais, la voiture elle a eu des problèmes de frein sur l'arrière. Et on a cherché dans tout, partout, parce qu'il y avait des coureurs anglais qui étaient là, on cherchait des pièces pour remplacer les cylindres de frein à l'arrière. On n'a rien trouvé, on a cherché partout et il voulait absolument courir. Alors j'ai dû supprimer les freins arrière, c'est-à-dire... À cause de l'hydraulique, on a bouché les conduites arrière et il est parti seulement avec les freins avant. Parce qu'il voulait absolument courir. Il a fait quelques tours, il était même en tête jusqu'à quand il s'est sorti à l'ESMO. Donc il a démoli la voiture et une semaine d'après, on devait la réparer pour aller en France.
Ah oui, donc lui, c'était, il voulait courir absolument et puis fini, terminé. Mais alors par contre, il avait un respect de ses amis et même quand, pour finir, c'était quand même une vedette, hein. Ses copains, c'était ses copains. On passait avant les personnalités qui tournaient autour parce qu'il s'appelait Joe Seifert à la fin.
Gabriel Guizolan, ami de Joe Seifert.
Moi, je me souviens que j'ai eu... Parce qu'à l'époque, on pouvait rouler sur les routes. Moi, j'ai fait avec lui Fribourg-Genève un samedi après-midi à 250 à l'heure dans une Aston Martin. Vous voyez, aujourd'hui... On n'oserait plus, donc d'ailleurs on se ferait arrêter. Moi je me rappelle, à 200 à l'heure, quand la voiture elle glissait, moi je me cramponnais sous le siège, puis je regardais ce qu'il faisait, puis il me regardait grimacer à côté. Et...
Quand il conduisait, pour lui c'était... Il était relax et c'était un plaisir pour lui, la vitesse, la conduite.
Oui, ça, il était tout à fait relax. D'ailleurs je vous dis, moi ça m'arrivait, cramponner sous le siège, là, hein. Regardez où on me disait, on sort où là, hein. Puis je le regardais, puis lui, il était en train de regarder les grimaces que moi je faisais à côté, quoi.
Il avait un peu la réputation de casseur de mécanique.
Non, on ne peut pas dire qu'il était casseur de mécanique. Tout au début, on a eu un petit peu des problèmes, parce que naturellement, ce n'était pas son métier, la mécanique, alors... De temps en temps, il avait des petits... Surtout quand il a débuté avec la moto avec moi. Mais après, ça s'est quand même arrangé, parce que petit à petit, il a quand même compris qu'il ne fallait pas dépasser les tours, qu'il ne fallait pas trop tirer sur la mécanique toujours.
Quand la voiture cassait, il était contraint à l'abandon. Est-ce que ça le fâchait, ça l'énervait ?
Il n'était pas content, là. Non, là, il n'était pas du tout content. Hein. Je ne pense pas qu'il avait le grand sourire. Hein. Oh, oui, bon, on a eu des autres choses. Il y a une voiture qui a été, il faut dire, en 62, au lac des Gardes. Au lac de Garde, il avait déjà gagné plusieurs courses. Là, on lui a saboté la voiture. C'est-à-dire qu'il avait fait le meilleur temps aux essais. Et quand il est parti pour la course, il a fait peut-être un tour. Il était en tête et la voiture elle a commencé à chauffer parce qu'on nous avait percé un tuyau d'eau. Juste, il y a quelqu'un qui a pu faire ça dans les boxes. On faisait pas la police autour des voitures à cette époque. C'était plutôt une épique de copains pour nous. Hein. Et là, on a vraiment été sabotés. On a vu, ils ont planté une petite aiguille dans une guérite d'eau. Et naturellement, après, avec la chaleur et la pression, l'eau a commencé à fuir. Et là, c'était fini.
C'est vrai qu'à l'époque, le sport automobile était réservé aux gens plutôt aisés, hein, aux gens riches. Et lui, venant de la basse ville, alors comment est-ce qu'il a pu se hisser à un niveau aussi élevé ?
Bien sûr, c'était déjà très cher à l'époque, mais contrairement à ce que c'est maintenant, à l'époque, vous pouviez concourir ou participer en tant que privé, où il y avait des écuries privées. Maintenant, il y a des usines qui doivent, ou des équipes comme McLaren ou comme Williams ou même comme Sauber, qui doivent investir beaucoup et qui ne vendent pas leur châssis. À l'époque, vous pouviez acheter un châssis Brabham, un châssis Lotus, vous pouviez acheter un moteur, vous faisiez une saison quasiment avec le même moteur. Évidemment, vous n'aviez pas de chance par rapport aux aux usines, mais un privé pouvait très bien tenter sa chance, s'inscrire pour un grand prix, et puis pas pour le suivant, puis de nouveau pour celui d'après. Ça a été son cas, et d'abord en tant que privé, ensuite dans le cas de l'écurie Philippe Hennetti, mais là ça s'est pas trop bien passé, et ensuite il a été recruté par l'écurie de Rob Walker, qui était un privé, et qui achetait ses châssis à Colin Chapman chez Lotus, qui achetait ses moteurs chez Cosworth, et qui faisait courir, il a fait courir Joe Bonnier, il a fait courir Stirling Moss, et en dernier ressort, il avait fait courir Joe Seifert. Donc c'était possible, et Seifert a été, avec Rob Walker, le dernier pilote d'une écurie privée à remporter un Grand Prix. C'était le Grand Prix d'Angleterre à Brands Hatch en 1968.
Rob Walker, hein, qui était un mécène, l'a approché, hein, un Anglais. Donc il a été sous l'aile de Rob Walker pendant plusieurs années.
Oui, c'était l'héritier des whisky de Johnny Walker, pour ne pas les nommer. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement riche, qui avait toujours eu une écurie de course. Il avait fait lui-même un petit peu de compétition, mais il n'était pas très bon. Et puis sa femme l'avait convaincu pour accepter de l'épouser, d'avoir une écurie plutôt que d'être pilote lui-même. Et c'était une sorte de mécène, oui, c'était un gentleman qui avait monté son écurie. Je vous dis, il avait fait courir Stirling Moss, il avait fait courir Joe Bonnier, il avait fait courir des grands, Maurice Trintignant, et c'était quelqu'un qui était unanimement reconnu dans le milieu. C'était un mécène du sport automobile qui assouvissait sa passion avec son équipe.
Pourquoi l'avez-vous engagé dans votre écurie?
Parce que j'estimais qu'il était l'un des meilleurs pilotes du monde, sinon le meilleur. Il l'a du reste prouvé à maintes reprises en prototype, mais il semble que les gens ne l'aient pas bien réalisé.
Il a très vite remarqué Joe Seifert.
Oui, il a remarqué très vite, et il a été soutenu dans sa démarche par Joe Bonnier, qui était un pilote qui courait pour lui et qui protégeait un petit peu Seifert. Et il l'a engagé, je pense en 64, fin 64, il l'a engagé. Et ils ont fait 5 saisons ensemble. C'était une relation presque de père à fils avec ce gentleman anglais qui était d'une éducation parfaite et qui était d'une gentillesse absolue. Et Seifert, qui était un homme tout d'une pièce, hein, avec beaucoup de sensibilité malgré tout. Mais les deux s'entendaient vraiment à merveille. C'était étonnant de voir ce mélange. Je pense que Rob Walker a autant eu d'influence sur Seifert que Seifert en a eu sur Walker. Walker, un jour, quand on a fait l'inauguration du garage ici, s'était lâché complètement et mimait le Grand Prix d'Angleterre que Seifert avait gagné l'année d'avant et tout ça. Mais on disait, mais c'est étonnant, c'est pas possible, ça peut pas être Rob, il peut pas être comme ça. Ben oui, c'était lui, et ça c'était Seifert qui avait un peu d'étain sur lui.
Parce que Seppi, au départ, c'est le gars qui arrivait le dimanche matin avec une chemise blanche, mais avec les manches encore noires de la semaine, quoi, vous voyez. Tandis qu'avec Sabine, elle a appris à s'habiller, à sortir en public, à se montrer. Elle l'a, comment on dit, dérouillée, quoi.
Sabine, c'était une de ses compagnes.
C'était sa bonne amie, donc. Et c'est Sabine qui l'a, comment on dit, appris à se montrer en public, à sortir dans le monde.
Il avait un côté, c'était un type qui était séducteur par nature, mais ce qui ne veut pas dire qu'il cherchait à séduire toutes les femmes, mais c'était une sorte de séduction naturelle qui s'opérait. C'était un type tellement drôle et tellement charmant que les femmes, entre autres, en tombaient amoureuses. Et puis les hommes ne tombaient pas amoureux, mais disons que recherchaient la compagnie de ce type qui était hors du commun, c'est sûr. Il n'avait pas beaucoup de contact avec son père. En revanche, sa mère était sa première supportrice. C'était une fan, mais qui tenait un rôle de mère absolument merveilleux, parce qu'elle lui disait toujours, avant qu'il parte pour une course, elle disait « va pas trop vite, va quand même pas trop vite », et puis du style « prends pas de risque ». Et puis quant au retour, s'il avait pas gagné, ce qui arrivait quand même la plupart du temps, elle disait « mais t'aurais pas pu aller un peu plus vite ». C'était une femme extraordinaire avec laquelle il avait un contact merveilleux.
1964, hein, Jacques Deschenaux, c'est à ce moment-là qu'il va battre le champion du monde, hein, Jim Clark. Ça, c'est sur le circuit d'Enna en Italie. Et puis 1964, c'est aussi là qu'il fait la connaissance de Jean Tinguely, hein, l'artiste fribourgeois. Alors ça, c'est une amitié finalement très forte.
Oui, bien sûr, comme il y avait une amitié très forte avec Jim Clark, il y a eu cette trouvaille cette rencontre entre l'artiste et le pilote, l'artiste qui adorait le sport automobile, il faut le dire, hein, déjà avant ça. Et les deux étaient sur la même longueur d'onde. Et là aussi, il y a eu des échanges d'ondes réciproques et une amitié énorme entre eux, qui débouchait par exemple sur le fait que Tinguely organisait ses expositions ou ses voyages en fonction du calendrier des courses de Seyfert, en particulier au Japon et en Californie.
Monsieur Tinguely,
oui.
Vous connaissez Seyfert depuis longtemps?
Non, pas plus longtemps, non. Mais 3-4 ans.
Et vous êtes très ami avec lui?
Enthousiastement, d'une façon enthousiaste, oui, je suis un ami à lui, et j'aime bien son travail.
Pouvez-vous expliquer un peu la relation entre votre travail et son travail?
Disons que la relation entre les deux est celle que tous les deux travaillent dans l'acte gratuit, peut-être. Et qu'il est en plus dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est la machine.
Radio Fribourg, les sons du réel, la suite dans un instant.